Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette... Et à toutes. Et merci d'être venus nombreux et nombreuses pour cette conférence co-organisée par Philomania et par le CERCIL. Alors tout d'abord, vous dire que nous sommes tous, je pense que vous serez d'accord avec moi, à la fois émus, honorés et très heureux d'avoir parmi nous ce soir Hélène Mouchardzé, fondatrice du CERCIL, qui a été longtemps sa présidente et sa directrice, et qui est aujourd'hui la présidente de l'association Mémoire Plurielle, dont elle pourra nous dire un mot tout à l'heure. Merci Hélène d'être avec nous. On est vraiment très très heureux que vous soyez là. Alors, en tant que présidente de Philomania, moi je vais juste vous dire un petit mot pour vous dire pourquoi Philomania souhaitait que le CERCIL co-organise cette conférence en particulier avec nous. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire, celle du Saint-Louis. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Le Saint-Louis, c'est un paquebot qui Claire a laissé volontairement quitter Hambourg en mai 1939 avec près de 900 juifs à bord. Ce que les juifs ne savaient pas, mais qu'Hitler savait, c'est que la réglementation de Cuba, qui était la destination du bateau, était en train de changer. Et les juifs sont partis, espérant débarquer à Cuba, le temps d'y obtenir des visas pour les États-Unis. Seulement voilà, on est en 1939, la Grande Dépression, qui a suivi la crise économique de 1929. Il n'a pas été difficile aux agitateurs éclairiens de fomenter des révoltes à Cuba en disant que les immigrés allaient prendre les peu de postes de travail qui étaient disponibles. La réglementation a changé. Quand le bateau est arrivé à Cuba, il n'a pas été autorisé à débarquer ses passagers. Ils ont longé les côtes de la Floride en demandant aux États-Unis des visas qu'ils n'ont pas obtenus pour des raisons assez similaires à ce qui s'était passé à Cuba. Le bateau a essayé au Canada, puis il a mis le cap sur l'Europe. Et là, il y a eu des tractations. Il y a eu la Belgique qui a dit « ben moi je veux bien en prendre tant ». Il y a eu les Pays-Bas « ben moi je veux en prendre tant ». L'Angleterre et la France « ben moi aussi je veux bien en prendre tant ». Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Au moment où il y a eu toutes ces noyades en Méditerranée et où on décidait de prendre ici 3 réfugiés et là 4. Donc on a beaucoup dit « plus jamais ça », mais je crois que nous devons être très attentifs aux signaux précurseurs. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Hélène, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Hélène.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis surveillée, là, oui. Bon, quelques mots simplement, d'abord, pour dire le plaisir du CERCIL. D'accueillir avec vous aujourd'hui Laurence Lacroix pour une conférence qui va être passionnante. Je n'insisterai pas sur l'opportunité de tels propos, étant donné la situation actuelle qui fait plus que nous préoccuper tous. Et j'avais simplement, pour dire quelques mots, j'avais en tête trois choses que vous avez tous en tête certainement, parce que vous êtes tous allés à l'école. D'abord, rappeler que chez les Grecs, l'hospitalité était un devoir sacré. Et que celui qui ne respectait pas l'hospitalité, c'est-à-dire qui refusait d'accueillir l'étranger ou qui l'accueillait mal, eh bien, il était Zeus était fâché, hein, et il était puni. Donc c'était un devoir sacré. On a en tête cette page d'Homère, hein, d'Ulysse qui, après ce long périple de 10 ans, qui va le ramener finalement à Ithaque, il arrive d'abord une première fois chez les Phéaciens. Il est presque nu, naufragé, affamé, misérable. Et il est accueilli par la fille du roi, Nausicaa, qui prend soin de lui sans du tout le connaître, qui le nourrit, qui l'habille, etc., et qui l'emmène chez son père, le roi. Et le roi, là, Ulysse va lui raconter ce qu'il a vécu. Et à la fin de ce récit, qui vont donner les beaux chants d'Homère après, il va lui offrir la main de sa fille. Et on voit là déjà un peu, peut-être ce que vous allez esquisser, c'est-à-dire ce don contre don. Celui qui accueille donne, mais en même temps, celui qui est accueilli donne aussi. Enfin, je crois que c'est des choses, Et d'une certaine façon, j'ajouterais que ça mêle la littérature à cette question de l'hospitalité, hein, puisque c'est en effet le texte d'Homère qui sort de là aussi. Et puis la deuxième fois, où Ulysse arrive enfin à Ithaque, mais là toujours, Athéna a décidé de le métamorphoser en mendiant, donc personne ne le reconnaît, c'est son île, hein, il est roi d'Ithaque. Et il est accueilli par cette fois-ci son porcher, Eumée, qui, sans le reconnaître du tout, lui aussi va l'accueillir, va le soigner, etc. Et ensuite, enfin, je ne raconterai pas la suite, mais vous avez tous en tête. Et puis la deuxième chose que je voulais évoquer, avant même le Saint-Louis que vous venez d'évoquer, c'est juillet 1938. Juillet 1938, Hitler est en pleine expansion, parce que je rappelle, mars 1938, il a annexé l'Autriche, sans aucune résistance, avec de molles protestations diplomatiques des démocraties qui l'entourent. Ensuite, il va décréter le Grand Reich, c'est-à-dire, 38, c'est une date très importante, je ne rentre pas dans l'histoire, c'est une date très importante. Et les Juifs qui sont en Allemagne, persécutés, vous le savez, depuis 1933, avec différentes étapes dans la persécution, ils peuvent encore sortir, parce qu'Hitler les laisse encore sortir après, il va refermer les frontières et le piège mortel de la déportation va s'abattre sur eux. Mais ils peuvent encore sortir avec des difficultés, en abandonnant tous, mais ils peuvent encore sortir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les pays se font tirer l'oreille vraiment pour les accueillir. Et à ce moment-là, Roosevelt convoque une assemblée internationale, une conférence internationale à Évian, parce que la Suisse n'en veut pas, donc ça se tiendra à Évian en France. Et là, il y a 33 pays. Et tous commencent la conférence. Enfin, l'Allemagne et l'Italie n'y sont pas, non plus que l'URSS d'ailleurs. Et tout le monde va commencer à s'apitoyer, ces pauvres juifs persécutés, il faut absolument faire quelque chose, etc., etc. Savez-vous quel est le résultat de la conférence? Les frontières se referment, c'est-à-dire la conférence. Pendant la conférence, chaque pays va expliquer que vraiment non, avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas les accueillir. Alors ils ont chacun leur raison. L'Australie, par exemple, parce qu'ils ont peur de provoquer des conflits raciaux. La France, parce qu'elle est saturée, elle peut, etc., etc. Chacun arrive à la tribune pour dire quelles sont les bonnes raisons qu'il a de ne pas accueillir davantage les réfugiés juifs qui fuient les persécutions en Allemagne. Et la conférence se termine par la création d'une commission qui ne sera pas d'accord. On a appelé cette conférence de Vienne la conférence de la honte. Et je voudrais simplement vous lire, et puis je ne serai pas longue, ce que déclarait Golda Meir, qui, vous savez, quelques temps après la guerre, deviendra la première ministre d'Israël. Elle était présente. Elle représentait l'agence juive. Et voilà ce qu'elle écrit dans ses mémoires. Être assise dans ce hall magnifique et devoir écouter chacune des 32 nations se lever tour à tour pour expliquer combien elles étaient affligées par le sort des malheureux juifs persécutés et combien elles auraient tellement voulu leur venir en aide et qu'à leur grande tristesse, elles ne voyaient vraiment pas comment faire pour intervenir est une expérience terrible et il m'est difficile d'exprimer la colère, la frustration et l'horreur qui m'ont envahi. À cette conférence, d'ailleurs, le mot juif n'est pratiquement pas prononcé, non plus que les persécutions juives. Et puis, évidemment, Hitler se sent des ailes, puisque, et vous connaissez la suite. Ensuite, il y aura l'épisode, en effet, du Saint-Louis, que je ne réévoquerai pas. Et puis, la troisième chose qui vient à la tête, avant de vous écouter, c'est des images. Parce que nous sommes à l'ère des images, et on en a plein à la tête, des images. Alors, on a les images récentes de l'accueil magnifique, quasi mondial, des réfugiés ukrainiens. Comme si notre prospère Europe retrouvait les gestes d'humanité élémentaires qu'elle avait un petit peu tendance à oublier depuis quelques années. Magnifique élan donc, sans oublier le magnifique geste d'Angela Merkel qui accueille en 2015 1 million de réfugiés syriens avec cette phrase magnifique « Oui, nous y arriverons, oui ». Nous y arriverons parce que nous sommes un pays fort, il faut le faire et nous y arriverons. Et puis aussi, on a inversement d'autres images, beaucoup moins belles. on a les images des réfugiés. Je pense que vous parlerez des questions de vocabulaire qui sont très importantes. Je vais dire réfugiés, là, mais migrants, etc. qui sont à Calais pour chasser ou aux portes de Paris. Vous avez tous vu les images. Les images des naufrages en Méditerranée. Toutes ces images, tous ces gens que, dans une certaine indifférence jusqu'à maintenant, on laisse mourir ou on laisse dans une situation effroyable. Il y a toutes ces images-là en tête et je crois que c'est avec ça qu'on va vous écouter avec tellement d'intérêt et merci d'être là.
Merci.
Au nom du CERCIL, je remercie vraiment Philomania de nous avoir associés sur cette question-là, pour toutes les raisons que vient d'énoncer Hélène. Et pour en parler, on est très heureux que ce soit Laurence Lacroix qui puisse évoquer ces questions-là. Le sujet a un petit peu changé par rapport à ce sujet qu'on pensait aborder il y a 2 ans, qui était uniquement autour de Lévinas. Et puis, vous avez pensé qu'il était important, intéressant d'intégrer également Hannah Arendt et Jacques Derrida. Donc, simplement pour vous présenter, je pense que le public vous connaît, mais vous êtes spécialiste dans les questions d'éthique. Vous êtes professeur de philosophie agrégé au lycée Voltaire. Vous enseignez également en BTS au Greta et à l'ERTS d'Olivet. Et vous animez des émissions de philosophie sur Radio Campus. Donc voilà, simplement pour vous dire qu'on était ravis de vous entendre. Et puis, il y aura évidemment un débat à l'issue de cette conférence.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup. Merci donc à toutes et à tous d'être là. Donc c'est vrai que la conférence que je vous propose ce soir devait avoir lieu donc en 2020. Donc le Covid l'a repoussé et aujourd'hui il est vrai, comme on vient de le soulever, que les événements historiques en fait nous rattrapent et font de cette conférence une conférence vraiment d'actualité. Alors les événements historiques qui nous rattrapent, c'est bien évidemment la crise ukrainienne, comme on le sait, le 24 février 2022, sur ordre du président Vladimir Poutine. Donc la Russie a envahit l'Ukraine. Alors, il faut juste que je trouve comment ça marche. Une fois que j'aurai trouvé, because ça marche. On va y arriver. Voilà. C'est bon. Donc effectivement, donc le 24 février 2022, donc l'Ukraine a été envahie et actuellement on est à peu près à 3 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays si on suit les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors la crise ukrainienne nous confronte véritablement actuellement à une crise migratoire et il est vrai qu'on assiste à un formidable élan de solidarité qui soulève actuellement le monde pour aider les Ukrainiens. Cependant, il est vrai aussi que nous n'avons pas toujours réagi ainsi. Il n'est qu'à se rappeler donc l'arrivée massive des Syriens en Grèce à partir de la Turquie durant l'été 2015. Celle-ci a suscité de nombreuses réactions, tant des États que des citoyens, allant de la spontanée, de la solidarité spontanée et organisée à l'hostilité et au rejet le plus dur. Dans ces conditions, interroger notre rapport à l'hospitalité paraît plus que jamais nécessaire. En effet, premier point, qu'est-ce que l'hospitalité ? Deuxième point, celle-ci est-elle un droit ou un devoir ? Peut-on accueillir tout le monde ? Y a-t-il des règles, des lois qui viennent encadrer notre manière d'accueillir les étrangers ? Alors déjà, ce simple survol des questions que soulève l'hospitalité montre que sa réalité est multiple. En effet, penser l'hospitalité demande de la penser dans différentes dimensions, une dimension interindividuelle, une dimension juridique ou encore une dimension politique. Ma première partie travaillera à présenter un panorama global de l'état actuel des migrations et de la manière par laquelle l'hospitalité se réalise dans le monde. Nous verrons, nous analyserons alors si les dispositifs que nous mettons en place pour réguler les logiques migratoires nous permettent encore de parler d'hospitalité. Mais il nous faudra aussi analyser ce qu'implique réellement le terme d'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que recevoir quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est, effectivement, qu'accueillir l'autre ? C'est pour répondre à ces questions que j'analyserai dans un second temps la relation particulière que l'hospitalité met en place entre deux individus. Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida me serviront alors de guide pour savoir si l'hospitalité peut être conçue comme inconditionnelle, illimitée, ouverte à tous et à tous, ou bien si elle n'est en réalité réalisable que limitée par des lois. La raison d'une telle question réside dans le fait que les politiques migratoires qui sont menées nous contraignent à reconnaître que l'hospitalité n'existe que dans sa dimension sélective actuellement. Nous ne recevons effectivement pas tout le monde. Alors, doit-on admettre que l'hospitalité est un idéal qui serait impossible à atteindre et que pour toute personne que nous accueillons, d'autres doivent nécessairement se voir rejetés, exclus, raccompagnés aux frontières? C'est en opposition à cette idée que j'analyserai dans la troisième partie de ma conférence la manière par laquelle Emmanuel Kant et Étienne Balibar repensent nos États dans leur structure tant juridique que constitutionnelle, afin d'essayer de penser une hospitalité qui soit une réalité tangible et que l'on puisse enfin offrir donc à tout humain. Alors, pour commencer cette conférence, j'aimerais interroger une idée générale, à savoir, est-ce qu'il nous est loisible de parler d'une hospitalité étatique ? Voilà. Alors, pour aborder ce problème, partons d'un chiffre. En 2019, selon un rapport des Nations Unies, on a estimé donc le nombre des migrants internationaux dans le monde à 272 millions. C'est-à-dire que les migrants internationaux concernent à peu près 3,5% de la population mondiale. Alors il est bon, du coup, d'interroger un peu la réalité qu'implique ce chiffre. Donc, que doit-on entendre par migrants internationaux et peut-être plus généralement, qu'est-ce qu'on doit entendre par le terme de migrant ? Alors le terme de migrant, c'est un terme qui en fait est très, très vaste, très vague. C'est-à-dire que par migrant, il faut entendre toute personne qui quitte son pays pour en rejoindre un autre. Toute personne qui quitte son pays pour en rejoindre un autre, en fait, ça va désigner des réalités très multiples. Tout d'abord, les migrants, ce sont tous les individus qui relèvent de ce qu'on appelle la mobilité internationale. Alors cela concerne essentiellement les ressortissants des pays européens que nous sommes, vous et moi, des États-Unis, du Japon, du Canada, de l'Australie, c'est-à-dire tous les individus qui en réalité ont la liberté d'aller et de venir. Alors je vous donne qu'un exemple, vous et moi, nous pouvons voyager grâce à notre passeport, c'est-à-dire sans visa, dans plus de 164 pays dans le monde. À la différence si vous prenez un passeport afghan. Un passeport afghan permet donc à son bénéficiaire de ne pouvoir se rendre que dans 30 pays dans le monde, sans visa. Ce qui veut dire que déjà au niveau mondial, on constate qu'il y a une véritable inégalité dans la mobilité. Mais ensuite, c'est vrai que le terme de migrant ne nous concerne pas, enfin, on n'a pas le sentiment d'être migrant quand nous partons en vacances aux États-Unis, d'accord ? Pourtant, nous le sommes. En fait, en règle générale, quand on parle de migrants, ce qu'on veut indiquer, ce sont tous ceux qui font des choix migratoires pour des raisons dites économiques. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on hésite à utiliser ce terme de migrant, et on va utiliser le terme de réfugié, pour désigner les personnes qui sont en situation de déplacement forcé. Alors du coup, le terme de réfugié, voilà, vous voyez, c'est un terme qui est très technique. C'est un terme qui a été mis en place lors de la Convention de Genève en 1951 et qui définit très clairement ce qu'est un réfugié. Donc, étudions un tant soit peu la définition donnée. Le terme de réfugié s'appliquera à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, du fait de cette crainte, ou ne veut, se réclamer de la protection de ce pays. Donc on voit déjà ce qui définit la notion de réfugié, deux termes, j'ai envie de dire, persécution, crainte, et puis du coup exil, le fait de quitter ce pays. Ensuite, il faut entendre aussi le fait que souvent, quand on parle de migrants, on dit aussi qu'on a affaire à des personnes qui sont déplacées. Donc là, on a encore un nouveau terme. Donc, les personnes déplacées, ce sont les personnes qui sont forcées de fuir ou de quitter leur lieu de résidence habituel, soit en franchissant une frontière internationale, et dans ce cas-là, elles peuvent devenir des réfugiés, soit en se déplaçant à l'intérieur de leur propre pays. Alors, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisées, de violations des droits de l'homme et du citoyen, ou encore, l'oublions pas, de catastrophes naturelles. Par exemple, dernièrement, quand l'Australie a flambé, il y a eu un véritable déplacement de population au sein de l'Australie. Les Australiens ont bougé au sein de leur pays. Donc voilà, comme on peut le voir, les migrants impliquent vraiment une réalité plurielle. Toujours est-il que c'est dans le fait même de, j'ai envie de dire, de se déplacer que se pose notre intérêt. De façon générale, la question qu'on peut poser, c'est vers quel pays fuient les migrants ? Voilà. Et peut-on dire que les migrants aillent tous vers les pays riches ? Ce que l'on a souvent tendance à penser. Alors du coup, voici la carte des populations migrantes mise en place donc par le Haut Comité aux réfugiés. Qui nous donne les chiffres de 2018. Alors, ce que l'on peut remarquer sur cette carte, c'est que plus de 60... Elle n'est pas belle, ma carte, vous ne la voyez pas ? Si ? C'est moi qui suis trop proche ? Vous arrivez à voir les... Ah oui, c'est moi, donc voilà. Donc, sur cette carte, vous voyez bien le monde, hein, avec les différents pays, c'est ça qui m'importe, c'est moi qui dois être trop proche de la carte. Donc, vous pouvez voir que plus de 60% des migrants, en fait, ne quittent pas l'hémisphère sud et que les trois quarts des réfugiés, en fait, s'installent chez leurs voisins. Ce qui veut dire que 39% des réfugiés sont accueillis au Moyen-Orient, 29% sont accueillis en Afrique, 14% sont accueillis en Asie-Pacifique et 6% seulement sont accueillis en Europe. Alors, les principaux pays qui accueillent les réfugiés dans le monde sont la Turquie, donc avec 3,7 millions de réfugiés, donc c'était avant la migration ukrainienne, hein, d'accord ? Le Pakistan, 1,4 million, l'Ouganda, 1,2 million, le Soudan, 1,1 million de réfugiés, l'Allemagne, avec le fameux « Nous y arriverons » d'Angela Merkel, avec 1,1 million. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, la Pologne est à peu près à 2,5 millions de réfugiés actuellement. Ça permet de se rendre compte de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Voilà. Alors, dans tous les cas, ce que l'on peut dire, quand on réfléchit au niveau migratoire dans le monde en règle générale, c'est que les réfugiés et les demandeurs d'asile sont essentiellement concentrés donc dans les pays pauvres. Les États en voie de développement, en premier lieu les plus démunis, accueillent 80% des exilés. D'accord ? Et le plus souvent, c'est vrai, ces migrants, ils survivent dans des conditions précaires et notamment dans les camps de réfugiés. Et ces réfugiés ou ces demandeurs d'asile se voient en règle générale refuser l'accès aux nations industrialisées et ils se voient aussi en règle générale refuser leur demande de droit d'asile. Alors c'est bien ce dernier point qui pose un vrai problème, tant éthique que juridique. Pourquoi ? Ben déjà parce qu'en 1948, lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, la communauté internationale a reconnu officiellement le droit de chercher asile. Alors le droit de chercher asile est effectivement inscrit dans la Déclaration universelle, dans l'article 14 de cette déclaration. Et il est très clair, hein, que nous dit l'article 14 ? Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Alors, pourquoi ce droit d'asile est-il si peu obtenu, et notamment en Europe ? Alors, pour l'Europe, si nous restreignons un peu donc notre projecteur. Pour l'Europe, nous avons eu en 2018 586 000 demandes d'asile, avec un taux de protection globale de 57%. Alors le taux de protection globale, ce sont les demandes d'asile qui ont été acceptées. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'on a en Europe 43% des demandes d'asile qui sont refusées. Alors on voit en fait que le taux de protection, c'est-à-dire en fait les demandes d'asile acceptées, varie selon les pays. La Syrie a un taux de protection de 86%, l'Afghanistan 46%, l'Irak 42%, le Nigeria 21%, le Pakistan 14%, la Turquie 47%, le Venezuela 29%, l'Iran 39%, l'Érythrée 83% et l'Albanie 8%. Voilà, il y a des différences qui sont importantes, il faudra qu'on y revienne. Mais si on veut comparer le taux de protection européen avec le taux de protection de la France, analysons un tant soit peu les chiffres. Alors, pour l'année 2018, pour la France, les demandes d'asile s'élèvent à 122 743. Et on peut noter déjà qu'on avait une hausse de 22% par rapport à 2017. Alors, comme vous le voyez, les principaux pays de demande d'asile sont l'Afghanistan, l'Albanie, la Géorgie, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement le taux de protection global. Vous voyez qu'on était à un taux de protection globale de 57% pour l'Europe, 43% donc de rejet. En France, on est sur un taux de protection globale de 36%. Voilà. Ce qui veut dire très clairement qu'on a 64% des demandes d'asile demandées qui sont rejetées. Alors, ce taux excessif de rejet tient au fait que les migrants dits économiques ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié. Voilà. Donc, du coup, autre question, est-ce que la France est toujours un pays d'accueil ? Alors, pour le savoir, peut-être retrouvons encore des chiffres, mais qui permettent de mettre véritablement une comparaison équitable entre la France et les autres pays européens. Donc on sort comme ça du problème du nombre de la population globale d'un pays et on réévalue en fait le taux d'accord des demandes d'asile qui sont octroyées par pays en le ramenant à une proportion de 1000 habitants. Voilà. Donc, par exemple, pour 1000 habitants au Luxembourg, vous avez 43 entrées qui ont été autorisées pour un an au moins. Et sur ces 43 entrées autorisées pour un temps au moins, en fait, le Luxembourg a accordé 37 demandes d'asile. D'accord ? De la même manière, en France, pour 1000 habitants, nous n'accordons que 6 entrées. D'accord ? Et sur ces 6 entrées, nous n'accordons que 4 demandes d'asile. Alors, vous avez les pays qui sont mis en place sur une logique hiérarchisée. Vous voyez en fait que la France, elle est très mal placée au niveau de l'accueil dans le cadre des pays européens. On peut presque aller jusqu'à dire que la France est un des pays d'Europe de l'Ouest où l'émigration est parmi les plus faibles. Voilà. Alors, du coup, une question, parce qu'on a quand même, je le rappelle, 64% des demandes d'asile qui sont rejetées. D'accord ? Alors, que deviennent ceux dont la demande d'asile a été refusée ? Alors, Ceux qui se voient refuser leur demande d'asile font en règle générale l'objet d'une OQTF, c'est-à-dire d'une obligation à quitter le territoire. Celle-ci est valable un an. Et suite à cette année, une nouvelle demande peut être déposée. Alors, ça paraît un peu surprenant, mais en tout cas, ça explique que du coup, durant cette année, j'ai envie de dire, de transition, beaucoup se cachent, ce qui veut dire qu'on a un système qui génère des êtres sans droit, sans papier, vivant et travaillant dans l'illégalité. Ceux qui sont pris lors de contrôle sont alors dirigés vers les CRA, c'est-à-dire les centres de rétention administratifs, dans lesquels, il faut reconnaître, s'exerce une grande violence. Alors, pour ceux qui sont peut-être pas trop au courant, qu'est-ce que c'est qu'un CRA, un centre de rétention administratif ? Donc, ce sont des centres qui ne sont pas considérés comme des prisons, car la privation de liberté a été décidée par l'administration et non pas par un juge. C'est pourquoi on parle de rétention, mais on ne parle pas de détention ou d'emprisonnement. Il est à noter que la durée maximale de rétention n'a jamais cessé d'être allongée depuis la création de la rétention administrative. Elle était de 7 jours en 1981. Elle est passée à 12 jours en 1998, puis à 32 en 2003, à 45 en 2011, et la nouvelle loi Asile et Immigration, adoptée en 2018, allonge ce délai à 90 jours et porte ainsi atteinte à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, assurant à chacun sa liberté à se déplacer où il le souhaite. En effet, l'article 13 indique très clairement que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 13 de la Déclaration universelle. Alors, comment conclure à partir de tout ça ? Ce que l'on peut dire, c'est que très clairement, la France est directement responsable d'une partie des violations dont souffrent les migrants. Elle s'est vue du reste condamnée 5 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour le placement notamment en rétention de familles avec enfants. Mais l'attitude de la France n'est pas une attitude isolée. Plus généralement, même si l'Europe continue à accueillir, elle cherche en réalité à fermer ses frontières. Alors encore une fois, la raison en est qu'à l'heure actuelle, aucun accord international ne contraint les États à accepter sur leur territoire des personnes qui migrent pour des raisons économiques. D'où le grand nombre de personnes qui tentent de franchir illégalement les frontières. Les migrants s'entassent sur des embarcations surchargées et vétustes afin d'atteindre les côtes italiennes au prix de nombreux naufrages, souvent très meurtriers. Ainsi, le 3 octobre 2013, un naufrage fait 366 victimes au large de l'île italienne de Lampedusa, suscitant une très vive émotion. Face à cela, l'Union européenne reste pourtant inactive, et c'est le gouvernement italien qui doit réagir seul en mettant en place l'opération Mare Nostrum, qui vise à faire patrouiller la marine italienne dans les eaux méditerranéennes entre l'Italie et la Libye afin de porter secours aux migrants. En 2015, l'intensification du conflit en Syrie génère un afflux de réfugiés. Les naufrages se multiplient et on compte plus de 1200 noyés au large de la Grèce pour le seul mois d'avril 2015. L'été qui suit voit un flot toujours plus important de réfugiés aborder les petites îles grecques. Le nombre de victimes s'accroît sans cesse. Très vite dépassé, la Grèce ne peut contenir le flux de réfugiés qui se lance sur les routes terrestres pour rejoindre d'autres pays de l'Union européenne, traversant les Balkans à pied dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Ce sont ces arrivées massives à un rythme très soutenu qui ont été qualifiées de crise migratoire. L'Europe a alors mis en place, pour répondre à ce problème, ce qu'elle a nommé l'approche hotspot. Dans les 2 pays d'arrivée des migrants par la Méditerranée, à savoir donc l'Italie et la Grèce. Alors sur cette carte, vous avez les principales routes migratoires qui sont empruntées hein, par les migrants. Donc on voit effectivement que ça entoure toute la Méditerranée. Vous avez à peu près le nombre de migrants donc qui les utilisent ou qui les ont utilisés. C'est ce qu'on appelle le franchissement illégal des frontières. Et donc vous voyez que pour répondre à ces, à, j'ai envie de dire, à ces routes migratoires, vous allez avoir tout un nombre de hotspots qui vont être déployés à partir de Lampedusa, puisque le problème s'est posé là d'abord, et ensuite sur tous les lieux où effectivement des bateaux peuvent accoster. Alors, les hotspots, qu'est-ce que c'est? Les hotspots, ce sont en fait des centres qui doivent servir à mettre en place les mécanismes dits de relocalisation, c'est-à-dire organiser la répartition des réfugiés statutaires dans les États membres, mais aussi à assurer, alors je cite le règlement européen Dublin III, l'identification, l'enregistrement et le relevé des empreintes digitales des migrants à leur arrivée, et aussi à coordonner leur opération de retour. Voilà. Donc, autrement dit, avec les hotspots, il s'agit à la fois d'améliorer l'accueil des demandeurs d'asile et aussi de mettre en place l'expulsion des migrants catégorisés comme économiques. Alors, là, en fait, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'approche hotspot s'est rapidement traduite par la création de centres de confinement lorsqu'il ne s'agit pas de centres de détention générateurs de violences, surpeuplés et sous-équipés, où le tri des arrivants s'effectue au mépris des règles européennes et internationales en matière d'accueil des demandeurs d'asile. En janvier 2017, Amnesty International relevait un taux d'occupation de 148% à Lesbos, de 215% à Samos et de 163% à Kos. Pendant l'hiver 2016-2017, particulièrement rigoureux dans la région, certains migrants ont été contraints de dormir en plein air, enveloppés dans de simples couvertures que la neige recouvrait pendant la nuit. La mise en place des hotspots montre ainsi la violation évidente qui est faite par l'Europe de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui a été du reste rapporté dans le New York Times dans un article du 11 mars 2020 et qui s'intitule « Nous sommes comme des animaux ». Alors, juste un passage de cet article. On est à Poros, donc une île grecque. Et qu'est-ce qui se passe à Poros, donc dans un des centres des hotspots? Le gouvernement grec détient des migrants au secret dans un lieu extrajudiciaire avant de les expulser vers la Turquie sans procédure régulière. Plusieurs migrants ont déclaré lors d'entretiens qu'ils avaient été capturés, dépouillés de leurs biens, battus et expulsés de Grèce sans avoir eu la possibilité de demander l'asile ou de parler à un avocat dans le cadre d'une procédure illégale appelée refoulement. Voilà. Alors, on a là, il me semble, l'exemple le plus frappant des efforts européens pour empêcher une reprise de la crise migratoire de 2015, qui, il est vrai, a perturbé la politique du continent et surtout aussi alimenté la montée de l'extrême droite dans un très grand nombre de pays membres. Alors, pour se protéger d'une nouvelle crise des migrants, plusieurs États européens, en premier lieu la Hongrie, ont alors décidé d'ériger des murs pour empêcher le passage des migrants. On peut noter qu'au moment qu'au moment de la chute du mur de Berlin, en 1989, 11 pays dans le monde étaient isolés par des frontières fermées et par des murs. En 2016, 70 pays avaient construit des murs et des clôtures militarisées. Les plus célèbres d'entre eux se situent aujourd'hui entre les États-Unis et le Mexique, l'Inde et le Bangladesh, et Israël et la Palestine. Ils sont appelés murs de défense, murs de séparation, barrières de sécurité ou encore clôture de protection. En Europe, cette barrière de protection est gérée par Frontex, l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Ces barrières, bien sûr, ont accru les dangers encourus par les migrants et indiquent clairement la volonté qui est nôtre de couper court à toute mobilité des hommes. Cette volonté se concrétise aussi par le traité que l'Europe a passé avec la Turquie le 18 mars 2016 et qui viole incontestablement le droit international et notamment le droit à la libre circulation des hommes. En effet, le but d'un tel traité est de tenir les migrants hors de l'Europe. Pour cela, la Turquie a pour tâche de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes migratoires irrégulières, qu'elles soient maritimes ou terrestres, ne s'ouvrent au départ de son territoire en direction de l'Union européenne. En échange, l'Europe lui verse 6 milliards d'euros pour la gestion chez elle de ses réfugiés. Alors, cette volonté d'externaliser et de maintenir hors de ses frontières les flux des migrants se retrouve aussi dans les mesures mises en place pour faire le tri des migrants en terre africaine, comme le hotspot installé depuis octobre 2017 à Agadez, au Niger. Reste à savoir si ces plateformes de tri, sortes de postes frontières européennes avancées, empêcheront les déboutés du droit d'asile de vouloir, comme aujourd'hui, continuer leur route vers l'Europe. Alors, au terme de cette première partie, nous pouvons que constater que nous sommes bien confrontés à une crise de l'accueil des migrants, c'est-à-dire à une crise de l'hospitalité. Non seulement nous ne savons plus recevoir, mais je crois qu'il nous faut dire que nous ne voulons plus recevoir. Et nous le manifestons en des procédures qui deviennent de plus en plus inhumaines. Cependant, à cette crise, on a affaire ici à une véritable crise de l'hospitalité publique qui ne doit pas occulter le fait qu'il y a une hospitalité privée dont font preuve un très grand nombre de citoyens. Car en effet, face à l'inhospitalité étatique, n'est-il pas du devoir du citoyen de faire preuve de désobéissance civile en vue de rétablir un droit à l'hospitalité par lequel nous serions de nouveau capables d'accueillir l'étranger? Alors, comme nous avons pu le constater jusqu'à présent, le taux de protection offert par les États peut se révéler extrêmement faible. Alors, du coup, on assiste à un très grand nombre d'exclus, à un très grand nombre de gens qui sont rejetés et qui sont reconduits aux frontières. Donc, dans cette seconde partie, j'aimerais m'intéresser plus particulièrement à une analyse qui porterait sur le fait d'aller interroger ce que cela implique pour un individu de se sentir exclu. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de chiffres. Mais derrière les chiffres, il y a des individus, il y a des humains. Donc, qu'est-ce que cela implique pour un individu de se sentir exclu? Quelles conséquences nos politiques migratoires ont-elles sur les individus? Alors, il revient à Hannah Arendt d'avoir conceptualisé une telle situation et un tel sentiment. Alors, dans l'exemplifié que vous avez pu prendre, vous avez tout le texte, le fameux texte d'Hannah Arendt sur nous autres réfugiés. Donc, ce qu'on peut dire, justement, c'est que être exclu, avoir le sentiment de ne plus exister pour le monde, telle est l'essence de ce que Hannah Arendt va nommer le paria ou encore l'indésirable. Donc il est vrai que la réflexion d'Hannah Arendt s'origine d'une lecture de Max Weber, c'est chez Max Weber qu'elle va trouver ce terme de paria, mais il n'empêche que c'est dans sa vie même, dans sa chair, qu'elle vivra ce statut. Alors rappelons un tant soit peu les faits. Alors tout d'abord, qui est Hannah Arendt? Alors, c'est une politologue, philosophe et journaliste juive allemande, naturalisée américaine, et qui est essentiellement connue pour ses travaux sur le totalitarisme. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en février 1933, les rapports privilégiés qu'entretenait donc Hannah Arendt avec les mouvements sionistes lui valent d'être mise en prison par la Gestapo. Donc, grâce à la confusion qui règne en 1933, elle y reste très peu de temps. Elle fuit alors l'Allemagne, elle passe à travers champs la frontière tchécoslovaque et se rend à Paris, où elle rejoint une vaste communauté d'exilés, acquit le Troisième Reich, ôtera finalement la nationalité allemande en 1937. Hannah Arendt devient ainsi apatride. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale amène les autorités françaises à décider d'enfermer tous les Allemands vivant en France dans des camps d'internement. Peu importe que le régime hitlérien leur ait retiré leur nationalité, peu importe même que ces apatrides se soient précisément distingués par leur activité contre le régime d'Hitler, leur origine allemande suffit à les rendre suspects d'hostilité envers la République française et justifie leur détention. Hannah Arendt est enfermée alors au camp de Gurs, près des Pyrénées, construit à l'origine pour y interner les républicains espagnols. Elle y reste 5 semaines jusqu'en juillet 1940. Comme elle le dira donc par la suite dans son article « Nous autres réfugiés », donc voilà, « Je suis de la nouvelle espèce d'être humain créée par l'histoire contemporaine qui est mise dans des camps de concentration par ses ennemis et dans des camps d'internement par ses amis. » Après la défaite militaire de la France et l'occupation de Paris par l'armée allemande, Hannah Arendt parvient à s'échapper. Elle fuit à nouveau vers le Portugal, cette fois, où elle arrivera à embarquer pour New York en 1941. Alors, de cette expérience et des analyses qu'elle va mener sur le régime totalitaire, elle tirera l'idée que tout humain porte en lui le droit d'avoir des droits, et notamment le droit de pouvoir bénéficier des lois de l'hospitalité. Alors, pour le dire encore plus clairement et dans les termes d'Hannah Arendt, l'hospitalité doit assurer à tout être qui vit l'exil et l'errance l'assurance de ne pas se voir traité comme un paria ou un indésirable, car, et c'est sa fameuse phrase, aucun humain n'est illégal. Alors, cette certitude qu'aucun humain n'est illégal se retrouve dans la philosophie de Jacques Derrida. Ce philosophe français, juif, s'est fait connaître donc du grand public par l'indignation qu'a soulevée en lui l'affaire Jacqueline Deltombe en 1997. Alors, quelle est cette affaire? L'hebdomadaire, donc le Nouvel Observateur, nous en fait part. Le crime de Jacqueline Deltombe. Elle avait hébergé dans le F5 qu'elle partage à Villeneuve-d'Ascq avec son concubin zaïrois, sa fille et ses deux nièces, l'une de ses amies, Hélène Herbeau, et le compagnon d'Hélène, Tony M. Bongo Bongolo, lui aussi zaïrois, en situation irrégulière. Ce qui, selon l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi Pasqua relative à l'immigration du 24 août 1993, l'expose à une peine de 5 ans de prison et à une amende de 200 000 francs. Lors de l'audience publique, le 28 janvier, le magistrat n'a requis aucune peine contre Jacqueline Deltombe au motif que leur caractère intentionnel de l'infraction à la loi n'était pas établi. Le jugement, rendu une semaine plus tard, l'a cependant déclarée coupable. Alors, c'est une affaire qui va profondément choquer l'opinion publique, car le verdict qui est prononcé, en fait, remet en cause le fait que chacun d'entre nous pouvons accueillir chez nous une personne sans avoir à se soucier de son statut juridique. Cette affaire met clairement au jour la tension qui existe entre des politiques publiques inhospitalières et l'émergence de plus en plus importante d'accueil privé, donc par les êtres que nous sommes, par les individus que nous sommes, de l'étranger. Donc la question du coup qui se pose à nous en tant que citoyens ou citoyennes est celle-ci: doit-on admettre que les politiques publiques en matière d'immigration puissent interférer sur notre décision d'ouvrir ou non notre porte à l'étranger? En d'autres termes, doit-on admettre l'existence d'un délit d'hospitalité? Et il y a là, pour Derrida, dans ce terme de délit d'hospitalité, quelque chose d'absolument impossible à concevoir. Et ça va être la fameuse réaction de Derrida. Puisque le délit d'hospitalité, c'est le terme utilisé et usité par la loi. Alors, La réaction de Derrida, c'est celle-ci, c'est vraiment une réaction qui se pose dans l'indignation. Derrida écrit donc dans le magazine Plein Droit, hein, voilà, il répond donc au verdict qui a été prononcé contre Jacqueline Delton. L'an dernier, je me rappelle un mauvais jour. J'avais eu comme le souffle coupé, un haut le cœur en vérité, quand j'ai entendu pour la première fois, la comprenant à peine, l'expression « délit d'hospitalité ». Il s'agissait d'une loi permettant de poursuivre, voire d'emprisonner, ceux qui hébergent et aident des étrangers en situation jugée illégale. Ce délit d'hospitalité, je me demande encore qui a pu oser associer ces mots, est passible d'emprisonnement. Que devient un pays, on se le demande. Que devient une culture, que devient une langue, quand on peut y parler de délit d'hospitalité ? Quand l'hospitalité peut devenir, aux yeux de la loi et de ses représentants, un crime. Alors, la réaction de Derrida suscite notre attention et notre réflexion. Doit-on admettre qu'il puisse y avoir des lois qui règlent et gouvernent notre rapport à l'hospitalité ? Ou bien doit-on plutôt, au contraire, penser cette dernière comme inconditionnelle, totale, sans limite ? La réponse qu'apporte Derrida est claire et nette. L'hospitalité doit être inconditionnelle, sinon elle n'est pas. L'hospitalité s'énonce donc pour Derrida en ces termes « Entre et sois le bienvenu, toi que je ne connais pas », on retrouve Ulysse, hein, voilà, Homère. L'hospitalité apparaît alors comme ce geste qui dit à l'autre « Tu n'es pas mon ennemi ». Cette conception de l'hospitalité, Jacques Derrida va la chercher chez Emmanuel Lévinas. Comme il le dit lui-même donc, en 1995, à la mort de Lévinas, il le dit, il nous dit que l'œuvre majeure de Lévinas, à savoir Totalité et Infini, est en fait un immense traité portant sur l'hospitalité. Donc, en fait, l'œuvre de Derrida se tourne autour de l'hospitalité. Quelle en est la raison ? La première chose qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on se tourne vers la vie de Lévinas, il est clair que lui aussi a une expérience du déplacement. Tout d'abord, le fait d'être juif l'a amené très tôt à vivre la marginalité et l'exclusion propre à ceux que l'on juge comme paria ou comme indésirables. En effet, Emmanuel Lévinas est né en 1905 à Kovno, en Lituanie, qui était alors un territoire russe. Son origine familiale juive lui fait vivre d'emblée le statut d'exclu et de déclassé qui est attaché à celui qui est simplement toléré sur un territoire et dans un pays qu'il ne peut pas considérer comme sien. La Première Guerre mondiale vient accentuer le sentiment d'insécurité lié au fait même d'être juif. En 1915, les Allemands prennent Kovno. Les Lévinas connaissent alors le destin des déplacés. Ils prennent la route vers une autre zone de relégation des Juifs en Russie, qu'est l'Ukraine. Ils se rendent à Kharkov, dont on parle beaucoup en ce moment. Hein. Voilà, donc la seconde ville d'Ukraine. Et ils vont y rester jusqu'en 1920, date à laquelle en fait la famille retournera en Lituanie, qui a obtenu son indépendance en 1919. Alors, durant toute cette période, ce que l'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Lévinas fait l'expérience du déplacement, du déclassement, de la vulnérabilité et de l'humiliation. En 1923, il décide alors de venir faire ses études de philosophie en France. Et là réside vraiment le tournant qui va marquer sa vie. Alors, pourquoi ? Parce que dans ce cas, il ne s'agit pas d'un exil imposé. Il n'est pas chassé de chez lui. C'est un choix totalement volontaire et libre, motivé par un profond désir de venir en France. La France, en effet, est le pays qui, grâce à l'abbé Grégoire, a su accorder des droits à son peuple. Alors, comme on peut le voir sur la plaque commémorative de l'abbé Grégoire, hein, On voit que c'est donc un personnage de la Révolution française, mais surtout c'est le défenseur de droit, des droits de tous les opprimés. Voilà. Abbé Grégoire, et c'est aussi, bien sûr, le pays où a pu avoir lieu l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire où l'injustice faite à un juif a pu devenir une affaire nationale. La France, comme pays des droits de l'homme, apparaît ainsi comme une terre de liberté, d'émancipation, un pays où l'accueil de l'autre en tant qu'autre est rendu possible. Et c'est cette notion d'accueil, d'hospitalité que ne va cesser de travailler Lévinas. Qu'est-ce qui la rend possible? Qu'est-ce qui la justifie? Pour Lévinas, la rencontre de l'autre n'est pas la simple rencontre de deux individualités séparées. Rencontrer l'autre, c'est pour Lévinas d'abord rencontrer un visage. D'où la fameuse, j'ai envie de dire, citation ou référence à Lévinas en matière de visage. Voilà en fait ce que nous dit Lévinas à propos de la rencontre qu'on peut avoir de l'autre. Je ne sais si l'on peut parler de phénoménologie du visage, puisque la phénoménologie décrit ce qui apparaît. De même, je me demande si l'on peut parler d'un regard tourné vers le visage, car le regard est connaissance, perception. Je pense plutôt que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. Donc pas du tout comme une personne. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. La rencontre de l'autre en tant qu'autre. Alors, ce rapport éthique que l'on entretient au visage, pour Lévinas, défie le pouvoir que je peux avoir sur autrui. Devant le visage d'autrui se révèle pour Lévinas l'antique parole « Tu ne commettras pas de meurtre ». Plus encore, cette présence en appelle à moi et à nul autre pour que je reconnaisse l'autre en sa détresse, en sa vulnérabilité, et qu'à partir de ce moment-là, je me sente comme responsable de lui. Cette attention à autrui, ce surplus de conscience, m'enseigne le privilège du prochain sur mon égoïsme naturel. Il m'apprenne que justice bien ordonnée commence par autrui. La littérature russe, et notamment, j'ai envie de dire, cet extrait de Dostoïevski, extrait des frères Karamazov, est extrêmement important pour Lévinas et va véritablement donner le ton ou les leitmotivs de sa philosophie. Il reprend constamment cette citation à Dostoïevski. Lévinas nous dit « L'éthique et le rapport à l'autre fait que nous sommes tous coupables de tout et de tous, devant tous, et moi plus que les autres. » Donc, le rapport que j'ai à l'autre fait que saisir l'autre en tant qu'autre, c'est être capable de me mettre à sa place. Et pour Lévinas, ça va très loin, puisqu'en fait, je deviens véritablement l'otage d'autrui, hein, au sens où ma responsabilité de l'autre est absolument totale. Et pour Lévinas, c'est cette responsabilité que j'ai de l'autre qui, en fait, va me définir en tant qu'individu. C'est ce qui me fait être et c'est ce qui me fait devenir quelqu'un. Alors, du coup, on peut se dire que, suite à une telle philosophie, l'hospitalité chez Lévinas ne peut être conçue que comme inconditionnelle, c'est-à-dire totale et sans limite. Or, est-ce que c'est véritablement le cas ? La réponse peut surprendre, mais en fait, Lévinas ne reconnaît pas l'hospitalité comme inconditionnelle. Il la pense comme limitée, parce que c'est ce qui va la rendre viable. Donc, et à partir de là, il dit, l'hospitalité doit en fait venir être limitée parce qu'il va nommer le principe de justice. Alors, pour comprendre ça, il faut sortir du rapport dual que j'ai à l'autre. La justice, qu'est-ce que c'est ? C'est admettre qu'il n'y a pas que moi et l'autre, il y a moi, l'autre et le tiers, c'est-à-dire le troisième homme. Et donc le rapport à l'autre, le rapport à autrui, vient limiter tout ce que j'ai à donner à l'un, puisque tout donner à l'un serait être injuste envers l'autre. Par conséquent, il va bien falloir j'ai envie de dire, venir gérer ce que l'on doit de donner à chacun. Par conséquent, la question qui va gérer la justice, c'est plus simplement le fait d'être totalement responsable de l'autre, mais de savoir, par exemple, qui passe le premier, qui a le plus besoin de moi. Dès lors, on peut voir que penser l'hospitalité chez Lévinas nous contraint, là encore, à penser des lois de l'hospitalité qui viennent donc la réguler, la limiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de cette analyse, il nous faut bien reconnaître que l'on ne peut pas accueillir sans, en même temps, posséder le droit d'exclure, de rejeter. Alors, du coup, on est quand même, à la fin de cette analyse, dans une posture qui nous met mal à l'aise, parce que, effectivement, même chez Lévinas, il semble que l'on doive tenir ensemble ces deux termes, à savoir hospitalité et exclusion, ce qui pose quand même un vrai problème. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est ce qu'on va tenter d'analyser dans un dernier temps, en se référant notamment à la philosophie kantienne. Alors, pour commencer ce troisième moment, je voudrais partir quand même d'un postulat. Le postulat, quel est-il? Il est de dire que si le monde fonctionne à peu près, ben c'est grâce à l'hospitalité. Voilà. C'est-à-dire à cette forme sociale, reconnaissant que nous sommes tous organiquement, objectivement, et qu'on le veuille ou non, solidaires les uns des autres. Par conséquent, si on veut la paix, l'hospitalité est indispensable. Et c'est en partant de ce principe que Kant a rédigé le projet de paix perpétuelle. Le projet donc de paix perpétuelle. Donc il montre dans son troisième article que pour parvenir à cette paix, il faut que le droit cosmopolitique rende possible les conditions d'une hospitalité universelle. Hospitalité universelle, c'est le terme de Kant. Alors, est-ce qu'on rejoint là la pensée de Derrida? Et est-ce que l'hospitalité universelle kantienne renvoie à l'hospitalité inconditionnelle demandée par Derrida? Alors, il est vrai que dans un premier temps, on pourrait le croire. En effet, si on lit le texte de Kant, on se retrouve avec, j'ai envie de dire, cette remarque. L'amour des hommes et le respect de leurs droits sont également un devoir. Mais le premier devoir n'est que conditionnel, tandis que le second est inconditionnel, c'est-à-dire est un commandement absolu. Alors c'est vrai que dans un premier temps, l'idée de devoir, de commandement absolu, d'amour des hommes, pourrait nous faire penser que Kant penche du côté d'une hospitalité inconditionnelle. En fait, ce n'est pas le cas. Ce qui importe dans ce texte, c'est de bien comprendre le respect de leurs droits. Le respect de leurs droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Kant, l'hospitalité ne dépend pas de l'éthique, mais dépend du juridique. Ce n'est pas un problème moral. L'hospitalité ne doit donc pas être confondue avec la bienveillance ou la philanthropie. Ce pourquoi elle ne relève pas du sentiment chez Kant, mais elle relève de la rationalité, laquelle est seule apte à énoncer des lois universelles, c'est-à-dire des lois valables pour tous, dont relève le droit à l'hospitalité. Voilà, hein. Kant nous parle bien d'un droit à l'hospitalité. Alors, qu'est-ce que ce droit à l'hospitalité? Pour Kant, il ne s'agit pas de philanthropie, mais de droit, et en ce sens, hospitalité signifie le droit qu'à tout étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive. Il s'agit seulement du droit de visite ou du droit de s'offrir à faire partie de la société, lequel appartient à tous les hommes en vertu de celui de la possession commune de la surface de la terre. Car à cause de la forme sphérique de cette surface, ils ne peuvent s'y disperser à l'infini et ils sont forcés à la fin de se souffrir, c'est-à-dire de se supporter les uns à côté des autres. Mais originairement, personne n'a plus de droit qu'un autre à un bien de la terre. Voilà. Donc, Voilà. D'où une analyse quand même importante, droit de visite, pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, la terre appartient à tous, ou à personne, si vous voulez. Donc à partir de ce moment-là, Kant reconnaît le droit à une mobilité universelle. Alors, le droit à l'hospitalité, pour Kant, a quand même aussi une visée, j'ai envie de dire, politiquement intéressée. Pourquoi ? Parce que pour Kant, il n'y a que ce droit à l'hospitalité qui peut assurer la paix entre les hommes. En effet, pour Kant, dans l'hospitalité, il y a un échange, il y a la réalisation d'une coexistence entre les individus qui va permettre donc aux différents citoyens des différents pays d'apprendre à se côtoyer, d'apprendre à se connaître. Il y a une mixité culturelle qui peut se mettre en place. Et pour Kant, cela va permettre justement de lutter contre toutes les dérives qui pourraient conduire à des guerres, j'ai envie de dire, entre nations. Plus les peuples apprennent à se connaître les uns les autres, moins les peuples ont le désir de se faire la guerre. Voyez ? Donc du coup, la migration est pour Kant absolument capitale, en vue, j'ai envie de dire, d'asseoir un lien extrêmement fort entre les individus pour permettre la réalisation de cette paix universelle. Alors, il est vrai, du coup, que l'idée du droit de visite amène à repenser le rapport que les individus ont à l'État. Dans la posture de Kant, on a affaire ici à la relativisation de la souveraineté de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette idée d'un droit de visite, pour le coup, j'ai envie de dire inconditionnel, il va impérativement falloir que les États assouplissent le contrôle à leurs frontières. En d'autres termes, les États, pour Kant, très clairement, ne peuvent pas fermer leurs frontières aux gens qui migrent. Le droit à l'hospitalité est aussi et en même temps un devoir qu'ont les États d'accueillir ceux qui se présentent à leurs frontières. Alors, est-ce à dire qu'on assiste à la fin des États ? Alors, c'est loin d'être le cas dans la pensée kantienne. En effet, cette minimisation de l'État est de suite contrebalancée chez Kant par la distinction qu'il instaure entre droit de visite et droit à l'installation. La résidence, c'est-à-dire le fait de venir vivre dans un pays, de s'installer dans un pays, reste chez Kant suspendue à un consentement étatique souverain. Elle peut être demandée auprès de l'État, mais aucune obligation ne contraint ce dernier à accéder à la demande de l'étranger. L'hospitalité ne devient donc une politique chez Kant que sous la prémisse de la reconnaissance d'un droit étatique à l'exclusion. Alors, bien qu'il ne fasse pas une référence explicite à Kant, Étienne Balibar, dans son ouvrage « Droit de cité », a cherché à démontrer qu'une pratique politique de l'hospitalité devait précisément se construire sur une déconstruction des limites de la souveraineté de l'État, et ce, par une pratique de la citoyenneté. Alors, selon Balibar, la frontière telle qu'on la connaît est aussi, j'ai envie de dire, inégalitaire que l'hospitalité que nous pratiquons à l'heure d'aujourd'hui. Donc, quelle en est la raison ? C'est que, en tant qu'institution, en fait, l'hospitalité nous amène à penser de façon tronquée le rapport que nous entretenons à la citoyenneté. En effet, pour Balibar, en fait, la citoyenneté peut être pensée à un double niveau. Alors, le niveau que nous lui connaissons, c'est-à-dire que nous sommes citoyens à l'heure d'aujourd'hui à partir du moment où notre citoyenneté nous est accordée par l'État auquel nous appartenons. Et donc, parce que nous sommes citoyens d'un État, nous recevons les droits que nous accorde l'État liés à cette citoyenneté. Donc, on peut dire d'une part que la citoyenneté est conçue sur un mode institutionnel, et comme le dit Étienne Balibar, donc je le cite, « Par définition, il n'y a de citoyenneté que là où il y a cité, c'est-à-dire où les concitoyens et les étrangers sont clairement distingués en termes de droits et d'obligations sur un territoire donné. Donc, en d'autres termes, la citoyenneté se pense selon une règle de fermeture et d'autarcie qui justifie ce que l'on pourrait nommer la toute souveraineté de l'État. Mais d'autre part, pour Balibar, et c'est le second temps sur lequel il réfléchit beaucoup, la citoyenneté est aussi à penser comme une activité politique, c'est-à-dire qu'elle est la production, par le biais de l'engagement individuel, d'un monde commun, pour reprendre les termes d'Anna Arendt, c'est-à-dire d'un espace public dans lequel peut se déployer la discussion égalitaire. En ce sens, la citoyenneté n'appartient en droit à personne, puisqu'elle n'est que le fruit d'une volonté et d'une participation créatrice. Dans cette perspective, le droit de cité est saisi par les acteurs politiques plutôt que distribué par une entité politique surplombante. Alors, fort de cette distinction, Étienne Balibar remarque que la manière par laquelle nous pensons communément la citoyenneté, à savoir comme accordée par l'État, c'est-à-dire comme close et hermétique, est dépourvue en réalité de critères la légitimant car elle est incompatible avec les droits fondamentaux des êtres humains. D'où la critique qu'il peut faire des droits de l'homme et du citoyen. Sans la citoyenneté accordée par l'État, les individus n'ont en réalité pas de droits. Or, et là il rejoint Anna Arendt, c'est le fait même d'être humain et de le manifester en demandant à être traité comme tel, c'est ça la citoyenneté comme activité, qui doit permettre à un individu de se voir accorder des droits. On retrouve là l'exigence développée par Anna Arendt que chaque humain a le droit d'avoir des droits, d'où le lien entre citoyenneté et égalité. Alors, cela nous mène à une situation salutaire pour Étienne Balibar, où les sans-État, les exclus, les déchus, les indésirables, les parias de l'intégration se réapproprient la citoyenneté comme activité pour mieux déconstruire la citoyenneté comme statut. Balibar y voit l'espoir d'un remaniement de l'État qui pousserait cette institution historique à plus de perméabilité, mais il y voit également l'opportunité d'un renouveau de la démocratie qui s'enracinerait dans la souveraineté d'un peuple à la composition originale, car très certainement transnationale. Alors, pour conclure cette conférence, nous pouvons reconnaître avec Kant la nécessité de mettre en place un droit à l'hospitalité qui pose très clairement l'assujettissement des lois contingentes de l'hospitalité à la loi inconditionnelle de l'hospitalité. En cela, Derrida a raison de se référer à Lévinas, dont toute la philosophie nous rappelle la prédominance de l'éthique sur le politique. Mais Étienne Balibar a aussi raison de souligner qu'une telle pensée ne peut que nous contraindre à reconsidérer le rôle et la fonction que nous voulons accorder à l'État. Possédons-nous des droits parce que nous sommes citoyens d'un État qui nous les garantit? Ou bien possédons-nous des droits parce que nous sommes, en tant qu'humains, citoyens de cette planète? En d'autres termes, notre humanité nous confère-t-elle le droit d'avoir des droits? C'est bien cette dernière solution que semblent privilégier les initiatives privées d'accueil des étrangers. Et j'aimerais terminer cette conférence par un tableau, un schéma, rappelant les actions mises en place par la société civile et qui ouvrent vers un droit cosmopolitique prenant en charge une hospitalité universelle. Donc, si vous voulez, on peut le regarder. Alors, l'avantage de ce schéma, c'est qu'il met en place des procédures existantes et puis ce qui est aussi souhaité dans l'avenir pour cette démocratisation de l'État et ce que l'on peut aussi nommer, j'ai envie de dire, cette souveraineté des peuples qui devient active et qui fait que chacun devient citoyen par ce rapport à l'activité politique, c'est-à-dire son engagement dans le monde social, dans son rapport aux autres, et non pas simplement par une libre décision d'une puissance transcendante et toute souveraine. Alors du coup, l'hospitalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un concept qui se pense en 5 points. Premier point, donc l'accueil, qui a à prendre en charge donc, la dignité des individus. Donc on retrouve par exemple ce qui se fait au niveau des maraudes, hein, voilà, la distribution du nécessaire utilitaire, les secours en mer, comme on a pu le voir avec l'Aquarius par exemple. Mais l'hospitalité, c'est aussi dans un second temps l'accès aux droits, c'est-à-dire à la solidarité. Alors comme c'est un peu caché, voilà, alors une des propositions par exemple qui n'est pas acquise là, hein, qui est à poser, c'est la fermeture des CRA, de ces fameux centres de rétention administrative. Mais c'est aussi savoir accompagner les gens dans toutes leurs démarches pour obtenir leurs papiers. Mais du coup aussi, proposition, régularisation des sans-papiers. Même droit pour tous et pour toutes. L'insertion sociale avec l'hospitalité, très important, c'est pas toujours acquis, ça ne l'est pas en tout cas dans notre droit par exemple. Dès que quelqu'un arrive, apprentissage du français, accueil des étudiants, insertion des mineurs et surtout aide à une formation professionnelle, c'est-à-dire de suite inscrire les gens dans la vie, dans la société civile. Et puis enfin, inclusion territoriale avec la citoyenneté, donc là beaucoup de propositions, droit de vote aux élections territoriales locales, reconnaissance des apports du travail, abrogation du CESEDA, donc c'est-à-dire du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte qu'il n'y ait plus de discrimination qui soit mise en place entre citoyens de première catégorie et citoyens de seconde catégorie. Un travail sur les quartiers, sur l'habitat, réurbanisation des quartiers sensibles, lutter contre les ghettoisations, et enfin, plus politique, un rapport à la mondialité de l'hospitalité qui lutte contre les rapports nord-sud, les rapports donc de domination pays riches, pays pauvres, permettre une liberté de circulation et d'installation en respect de l'article 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, rejet des dettes odieuses de migration qui ont lieu actuellement, et puis réparation de la dette écologique et revalorisation de l'ensemble des cultures au niveau mondial. Voilà, merci beaucoup. Donc si vous voulez intervenir, hein, surtout n'hésitez pas, il reste un peu de temps pour le débat. Donc,
Bonjour, merci pour cet exposé extrêmement bien construit, très complet et très informatif. Je suis fasciné par votre capacité d'avoir fait une synthèse. Je vais terminer juste sur ce schéma.
Oui.
Il se trouve que c'est moi qui l'ai fait.
Ah bah, voilà.
Il y a un point qui me paraît important et qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment, qui nous fait réfléchir dans l'équipe d'ATTAC, l'espace de travail migration. C'est le dernier point que vous n'avez pas eu l'occasion de citer, parce qu'il ne faut pas tout citer, remise en cause des rapports militaro-économiques de domination. Et c'est cela que nous vivons en ce moment, le tremblement de terre. Coopération avec les pays du Sud qui vise à l'autonomie des avantages réciproques et qui permet de faciliter la libre circulation et par conséquent la reconnaissance de l'autre. On se heurte actuellement à ce dernier point supérieur qu'on ne sait pas correctement penser, traiter autrement que par les formes d'accueil et de bienveillance.
Oui, tout à fait. Ouais. Merci.
En tout cas, merci pour votre exposé. C'est remarquable.
Ça va, voilà. Oui, c'est bon. Oui, effectivement, j'ai appris des tas de choses par rapport à cet exposé. Et en fait, je pense qu'il faut retourner au fondamental de l'être humain. Dans son cœur, il est hospitalier.
Oui.
Mais depuis qu'il est l'être humain, en fait. Mais simplement aujourd'hui, on est confronté à une hospitalité qui est forcée, et les gens ont peur. Et en fait, cette hospitalité, elle est, c'est, ça serait effectivement l'avenir de la planète, hein, qu'il n'y ait plus de nations. Enfin, il y en aura forcément, parce que mais ça serait un élan. Ça serait vraiment l'idéalisme complet. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question des gouvernements dont ces ressortissants, enfin, fuient. Eux ne sont jamais inquiétés. On les responsabilise jamais par rapport à leur propre peuple, qui n'est pas heureux chez eux. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces... Ils ne sont jamais inquiétés, et nous, on culpabilise en permanence, parce qu'on n'arrive pas à absorber tout ça. Alors que ce n'est pas un problème dans notre cœur. Ça, c'est absolument pas un problème. Le seul problème, après, c'est qu'il faut pouvoir communiquer avec ces personnes-là, donc avoir le même langage, et puis voilà. Et puis que ces personnes-là arrivent à être autonomes économiquement pour que l'échange puisse continuer. Mais finalement, il n'y a pas de responsabilisation des peuples, enfin des gouvernants qui ont un pays. Leurs ressortissants partent parce qu'ils ne sont pas heureux, donc il faut vraiment se poser les vraies questions, en fait. Et après ça serait un langage universel. Bon, après, tout est légitime. Mais voilà.
Mais c'est pour ça que l'hospitalité, ça se joue à des niveaux tellement différents. Ouais. Il y a le niveau individuel, il y a le niveau politique. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est énorme.
C'est énorme, mais en même temps, il y a bien une possibilité de faire, parce que ça n'empêche pas de nous fermer le cadre, mais en même temps, avec l'autonomie politique.
Oui, bonjour. Effectivement, c'était une belle présentation. Vous n'avez pas parlé de quelque chose qui va devenir de plus en plus important, je pense, c'est les réfugiés écologiques, ouais, à cause du climat. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau international, il y a une reconnaissance particulière de ces réfugiés? Est-ce qu'ils ont un statut particulier, ou est-ce qu'on les considère plutôt comme des réfugiés économiques?
Alors, en fait, la réflexion, elle est menée. Il faut savoir que, d'après le GIEC, d'ici 2050, donc c'est demain quand même, on risque d'avoir 250 millions de personnes qui vont, alors j'ai envie de dire déplacer de façon très générale, de par le monde à cause du réchauffement climatique. Donc, comment on va les recevoir? J'ai envie de dire aussi avec quel titre. Enfin, voilà, on voit par exemple avec l'Ukraine qu'on est capable de penser actuellement des statuts juridiques qui modifient le rapport qu'on a traditionnellement au droit d'asile, etc., etc. Mais c'est sûr que sur le réchauffement climatique, il va y avoir là encore de très grands bouleversements, et il va y avoir des migrations extrêmement importantes auxquelles on va être confronté. Donc c'est pour ça qu'il faut le penser, cette manière par laquelle il va nous falloir organiser l'hospitalité. Voilà, ça, c'est, ça me semble être une évidence.
Ouais. Oui. Merci pour cette conférence vraiment très riche et très informative. J'aurais une question. Quelle serait ta position par rapport à l'idéal du cosmopolitisme? C'est-à-dire, est-ce que tu irais au terme de ta réflexion jusqu'à, pour l'instant c'est une vue d'esprit, hein, mais jusqu'à défendre l'idée d'une abolition des frontières? Parce que tu milites pour des frontières ouvertes, mais
ouais,
peut-être, mais est-ce la présence même de la frontière qui pose problème?
Je sais pas. Je t'avoue que moi, je reste dans une posture kantienne, peut-être à améliorer d'un point de vue juridique ou à inventer. Mais je trouve que le maintien des frontières est important. Parce qu'il y a des entités, parce qu'il y a des cultures, parce que c'est enfin, je me dis un des dangers aussi dans lequel il faut pas tomber, c'est l'homogénéisation, l'uniformisation, tu vois. Maintenir les différences dans ce qu'elles sont, ça me semble être aussi une bonne chose. Qui sommes-nous après? Enfin, tu vois, pour moi, la frontière, c'est aussi un état, mais une culture. Un passé, se reconnaître dans une langue. Enfin, il y a aussi le problème des langues. Il y a, voilà.
C'est alors, ce que disait Régis Debray là, dans Éloge des frontières.
Ah ouais, ah ouais, voilà.
C'est que la frontière, c'est ce qui protège.
Bah
c'est
aussi.
Ce qui permet aussi le dialogue.
Ouais.
La frontière, c'est pas un mur, c'est un pont.
Ouais, je serais assez là-dessus, ouais.
Du coup, on n'est pas tout à fait d'accord, parce qu'on a vu au cours de l'histoire que les frontières, déjà, elles n'étaient pas pensées comme nous, on les pense maintenant. et qu'elles n'ont pas arrêté de bouger, et que malgré les frontières, les cultures s'interpénètrent, et que... Enfin, la frontière, elle sert à rien, comment dire. En termes de culture, je ne pense pas vraiment que ça arrête les choses.
Oui, donc on pourrait vivre sans frontières.
D'un point de vue culturel, très certainement. Après, d'un point de vue étatique et politique, ça, ouais. C'est une autre question.
Ben, c'est ça, en fait. Voilà. C'est comment penser le monde de demain. Est-ce qu'on pense un État mondial ? Après tout, pourquoi pas ? Tu vois. Ou est-ce qu'on pourrait penser, ou est-ce qu'il faut penser un système fédératif ? Comment organiser un tant soit peu tout cela, quoi ? Ouais.
Citoyenneté universelle. Mm. Citoyenneté universelle.
Avec une citoyenneté universelle, ouais. Mm. Qui donne le droit d'avoir des droits.
Mm. On est dans le sens que vous avez dit, ou que quelqu'un vient de dire. On prenait, nous, l'exemple des hospices au col entre l'Italie et la France. Mm. L'hospice n'était pas la frontière, c'était le lieu d'accueil de celui qui passe. Commerçant, pauvre, habitant du coin, et la frontière se réalisait non pas sur une ligne avec une douane, mais sur 20 km à l'intérieur, 20 km à l'extérieur, comme un lieu de transition pour que l'autre puisse être reçu. Mm. C'est pas la même chose.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il n'y a pas de mur.
Absolument.
Ouais.
Oui. Je voudrais faire une double intervention en... Je sais pas si il doit, une double intervention en disant... en étant un peu effrayé par un cri que j'entends assez régulièrement, c'est « Ici, c'est chez nous ». Et je dois dire qu'à l'âge que j'atteins, je ne sais toujours pas pourquoi c'est chez nous, parce que je ne sais toujours pas comment on choisit de qui on est et où on est. Donc là, c'est toujours une question qui n'est pas résolue. Le deuxième point, c'est l'exclusion, on nous manœuvre par la peur. Et moi qui apparemment, je n'entre pas, semble-t-il, dans les critères actuels d'exclusion, mais ça me fait drôlement peur. Parce que si les critères changent, je peux me trouver visé du jour au lendemain par ce processus d'exclusion. Alors quand on dit qu'on nous protège, ça m'interroge.
Eh oui, bien sûr.
J'ai peut-être une question donc sur les frontières, déjà.
Oui, pardon.
Alors que la tendance est plutôt actuellement à essayer de gommer ces frontières, des grands états géopolitiques, des grands ensembles géopolitiques qui se mettent en place. Et puis, vous n'avez pas évoqué le passeport Nansen, le passeport des apatrides. Je ne sais pas comment on considère ce passeport par rapport à ce que vous avez dit. Parce que ça a été effectivement une mesure technique qui avait été prise. Mm. Est-ce qu'il pourrait revivre ? Est-ce qu'il pourrait ressurgir ?
Je ne sais pas. Le problème de l'apatride, c'est déjà... voilà, c'est... Je pense que le problème de l'apatride pose vraiment le doigt sur le fait que c'est l'État, dans sa toute-puissance, qui nous reconnaît comme étant ses citoyens. Et donc, effectivement, qui a du coup aussi le pouvoir de nous enlever cette citoyenneté. Voilà. Donc un État peut nous rendre apatrides. Voilà. La question est, justement, enfin, si on change la définition de la citoyenneté, si la citoyenneté n'est plus ce qui est octroyé par les États, mais s'il y a une citoyenneté universelle, j'ai envie de dire, le problème ne se pose plus, quoi. Voilà. Et donc, il me semble que c'est plus de ce côté-là vers lequel il nous faut travailler... Que de remettre en place quelque chose qui maintient quand même ce rapport entre ce que la Révolution française a posé, hein, les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire, il n'y a de droits de l'homme respectés que là où il y a reconnaissance de la citoyenneté. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faudrait réussir à casser, quoi. Voilà. Alors, je réponds peut-être pas totalement à votre question, mais... Mais voilà.
Ouais. N'est-on pas plus enclin à accueillir l'autre qu'il nous est moins différent ? C'est-à-dire, je pose la question, quel est mon degré d'acceptation de la différence ? et le problème a été posé tout à fait au début, ukrainien, syrien.
Mmh. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais c'est évident, hein. La différence, elle fait peur. Hein. Et puis, la différence sur tous les plans fait peur. Hein. Donc, la différence culturelle, la différence de mode de vie. Enfin, il ne faut pas oublier que les premiers, j'ai envie de dire, migrants qu'on a reçus, c'était les boat people. Donc, c'était l'Asie aussi. Donc là aussi, ça a été difficile pour nous de recevoir. Mais je pense, oui, que l'hospitalité, à certains moments, demande à ce qu'on se fasse un peu violence. Ouais.
Et je répondrai à Hélène sur Angela Merkel et l'accueil des Syriens. Angela Merkel, pour moi, n'est pas une grande visionnaire, mais une excellente comptable. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a un problème de démographie et qu'elle a vu qu'il y avait là une main d'œuvre qui arrivait.
Mais quand même.
Je vois que l'heure tourne et je vous proposais de continuer les échanges avec Laurence et entre vous autour du pot de l'amitié du côté de la cafétéria.
Merci pour cette conférence.
Merci à vous.
Très intéressant de passer de données très concrètes à une approche philosophique. Mm. Voilà, je voulais signaler que lundi prochain, à 20h...
Si, il marche, oui.
Lundi prochain, à 20h, à la médiathèque, il y a une conférence sur le thème « Accueillir l'étranger, les nouvelles mobilisations citoyennes ». Donc c'est un cours direct. Et c'est donné par une sociologue qui travaille à Paris, à l'Institut Convergence et Migration, qui a coopéré à un livre qui s'intitule « L'hospitalité en France ». Voilà, donc on sera très heureux de vous y accueillir, si vous avez la gentillesse de venir.
Merci beaucoup. Nous y serons.
Comme c'est le numéro 7, la fin de l'année, je ne vais pas.